Bonjour. Et voilà, nous arrivons au bout de ce voyage à travers les règles de discernement des esprits, selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Voici le dernier épisode de cette série de 16 épisodes, qui est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais, Le discernement des esprits, libération des captifs, avec le père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver les entretiens en anglais sur la chaîne YouTube Discerning Hearts. C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. 14e règle. Enfin, il imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche butin. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place, et il l'attaque du côté le plus faible. Il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine. Il rôde sans cesse autour de nous, il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales, et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire. Nous en sommes à la 14e et dernière règle de cet enseignement sur le discernement des esprits. C'est la fin des règles, mais le début de l'aventure spirituelle d'une vie de discernement, une vie libérée des entraves et des tentations de l'ennemi qui déploie ses ruses pour nous garder captifs sous son pouvoir. Dieu nous veut libres. Il nous appelle à lutter pour notre liberté. Dans la règle numéro 12, Ignace veut que nous comprenions que l'ennemi est faible par nature, que sa seule force est notre faiblesse, et que par conséquent, il est essentiel de résister fermement à ses tentations dès le début de ses attaques pour ne lui laisser aucune chance. Dans la règle numéro 13, Ignace met en lumière le désir de l'ennemi que nous gardions secret ses tourments et ses suggestions troublantes, que nous ne les révélions à personne, et insiste sur l'impératif de faire exactement le contraire. Dans la règle numéro 14, Ignace veut nous montrer que l'ennemi est très doué pour repérer nos faiblesses et les exploiter pour nous attaquer, et il nous explique comment réagir pour neutraliser cette tactique. Étudions le texte de la règle. La structure est semblable à celle des deux dernières règles, d'abord une métaphore et ensuite son application à la vie spirituelle et la leçon qu'Ignace en tire. L'ennemi imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche butin. Ça nous indique que ce n'est pas un chef honnête menant une attaque pour défendre une juste cause. C'est plutôt le meneur d'une bande de voleurs qui veut piller, voler et détruire. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place, et il l'attaque du côté le plus faible. Voilà, c'est la métaphore. Et maintenant, l'application à la vie spirituelle. Il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine. Il rôde sans cesse autour de nous. Il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales. L'ennemi regarde l'ensemble de notre vie spirituelle, comment nous prions, comment nous nous mettons au service de Dieu, de quoi nous avons peur, quand nous perdons patience, quand nous sommes frustrés, tous les aspects de la vie spirituelle. Et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire. Explorons un peu plus la métaphore en nous projetant dans l'Espagne de l'époque de Saint Ignace. Si vous êtes déjà allé en Europe, vous avez vu des villes de cette époque souvent construites sur une hauteur pour en faciliter la défense. On peut imaginer le paysage, une plaine, une colline ou un promontoire au loin, au sommet duquel est bâtie une petite ville ou un château avec ses murailles, ses tours, sa porte, ses défenses. Les villageois du haut des fortifications repèrent au loin un groupe désordonné de cavaliers à l'allure inquiétante, une bande de brigands qui approche. Ils les voient installer leur camp dans la plaine, ils remarquent ensuite que le chef de la bande et quelques acolytes s'approchent à cheval et, tout en restant hors de portée, font lentement le tour des fortifications de la ville. Ils les voient explorer et inspecter le terrain, les voies d'approche, l'épaisseur des murs, les réparations, les tours, la porte. À un moment, le chef s'arrête devant l'endroit où le mur est endommagé, les pierres se sont écroulées, c'est le point faible de la place forte. et peu de temps après, l'attaque est lancée et toute la troupe se précipite vers le point faible de la fortification. C'est ainsi qu'agit l'ennemi, nous dit Ignace. Il étudie tous les angles de notre vie spirituelle et nous attaque là où nous sommes le plus faibles. Encore une fois, on entre dans un domaine très personnel, très intime de chacun. Il y a en chacun de nous ce point, cette faiblesse, cette fragilité où nous sommes le plus vulnérables à une attaque de l'ennemi. Combien de fois ne nous sommes-nous pas dit en pensant à notre vie spirituelle? J'ai l'impression de me retrouver toujours dans la même situation. Je finis toujours par tellement forcer que je m'épuise et que mes habitudes de prière se dérèglent complètement. Ou bien, je fais tellement d'efforts que je finis par me frustrer et laisser tomber. Ou bien encore, je finis par douter de l'amour du Seigneur. Ces schémas qui se répètent, ces situations qui semblent revenir régulièrement et qui à chaque fois m'épuisent spirituellement, font dérailler ma vie de foi, sont peut-être à considérer dans la perspective de la règle 14. Ces schémas sont peut-être des révélateurs de points faibles qui nous exposent aux tentatives de découragement, d'abattement de l'ennemi. Avançons un peu dans la métaphore de la place forte sur le promontoire. Imaginons un jour paisible dans la ville. Les villageois se réunissent sur la place à l'intérieur des murs et ils discutent. Vous savez, il y a régulièrement des bandes de brigands qui s'approchent. On devrait inspecter nos défenses. Et le responsable de la ville, accompagné d'assistants, sort et lentement, ils font le tour des fortifications, étudient les différents points d'accès, vérifient l'épaisseur des murs, notent les réparations nécessaires et repèrent la brèche là où le mur est en train de s'écrouler. À quoi sert d'avoir une muraille de 3 mètres d'épaisseur de pierre s'il y a une brèche dans le mur? Les défenses ne sont pas plus fortes que leur point le plus faible. Les villageois comprennent et se mettent au travail. Ils enlèvent les pierres écroulées, reconstruisent le mur à cet endroit en utilisant de nouveaux matériaux et renforcent ce qui était le point faible de leur protection. Et la fois suivante que les guetteurs aperçoivent à l'horizon une troupe de bandits qui les voient installer leur camp et s'approcher pour faire leur repérage, faire lentement le tour de la muraille, étudier les réparations et renforcements, la situation est bien différente. Le point qui était faible est maintenant solide et résistant. Et du coup, l'ennemi n'a plus que deux choix, attaquer une place très bien protégée ou abandonner complètement. C'est l'enseignement qu'Ignace veut communiquer dans cette règle, sa dernière. Pour que nous devenions cette personne qui sait, avant même l'attaque, où elle va probablement se produire et qui travaille à renforcer ce point, à grandir dans cette partie de sa vie spirituelle qui était la plus fragile, mais qui devient de plus en plus forte. Saint Jean de la Croix dit: quand nous progressons dans une vertu, nous progressons simultanément dans toutes les autres. Et si c'était vrai pour n'importe quel domaine de croissance spirituelle, ça aurait encore plus d'importance si on connaît son point faible et si on s'efforce par tous les moyens de le renforcer, si on travaille à progresser dans ce domaine précis. Ce besoin de renforcer les vulnérabilités conduit parfois à rechercher ce qu'on appelle communément la guérison spirituelle, et qui consiste à relire sa vie en cherchant à repérer les moments ou les domaines qui ont causé le plus de souffrance, les souvenirs qui ont affecté et affectent encore peut-être la capacité de s'approcher du Seigneur, ces blessures qui ont tendance à se rouvrir en provoquant des réactions potentiellement inappropriées. Et c'est tout à fait en ligne avec ce qu'Ignace veut partager dans cette règle 14. Si on regarde la figure de Jésus dans l'Évangile, il est le guérisseur. Bien sûr, il est aussi le maître, le modèle, mais pour les foules qui le suivent, il est d'abord et avant tout un guérisseur, et les gens viennent à lui pour être guéris. La guérison est très importante parce que ces faiblesses qui reviennent régulièrement et qu'on apprend à connaître sont souvent la surface apparente d'une blessure bien plus profonde dans laquelle le comportement s'enracine. Tous et chacun, nous avons besoin de la guérison que Jésus prodigue. Il n'y a aucune honte à cela. Bien au contraire, c'est une belle démarche de foi que de demander à Jésus la guérison. Et chercher tous les moyens disponibles pour arriver à cette guérison spirituelle, pour laisser Jésus guérir ses blessures profondes du cœur, est une des approches les plus puissantes pour renforcer ce qui, en surface, apparaît comme un point faible. La guérison touche les racines, pas juste les branches. Les racines parce que la guérison de Jésus est intérieure, complète, transformatrice. le point faible cesse d'être une vulnérabilité. Un exemple. Le père Gallagher reçoit un jour une lettre d'une femme qui avait récemment commencé à mettre en pratique ses règles pour vivre une vie de discernement. Et dans cette lettre, elle lui envoie ce qu'elle appelle elle-même un témoignage non sollicité. Et elle l'incite à la citer au besoin si cela peut en aider d'autres. Il s'agit d'une femme très engagée dans son amour pour le Seigneur. Elle écrit « Ce que je comprends maintenant, c'est que le cœur de mon problème était toujours le même vieux problème, déguisé parfois un peu différemment, mais cependant toujours le même, mon doute perpétuel que Dieu puisse m'aimer, et tout le bourbier de négativité qu'une telle pensée peut amener. » Quelle clairvoyance! C'est la liberté qui émerge et mène au début du chemin vers la guérison. Le même vieux problème. C'est un vocabulaire typique de la règle 14. Pour elle, et peut-être pour beaucoup d'autres, le vrai point faible, c'est « Est-ce que Dieu peut vraiment aimer quelqu'un comme moi ?» avec tout le bourbier de négativité qui accompagne une telle pensée, comme elle dit. Pensons à ce qui peut arriver à cette femme qui voit maintenant si clairement la racine de sa vulnérabilité et qui commence à travailler à renforcer cette faille, si on peut utiliser ce mot, dans ses défenses spirituelles. Elle commence par aller parler à un accompagnateur spirituel avisé et compétent. Elle réussit à trouver les mots justes pour expliquer ce qui se passe. Elle reçoit des conseils qui la guident. Et peut-être que sur les conseils de son accompagnateur, elle suit une retraite qui la nourrit. Elle découvre des passages de la Bible qu'elle peut méditer qui lui disent à quel point elle est précieuse et unique aux yeux de Dieu. « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » En fait, tout le chapitre 43 du livre d'Isaïe et bien d'autres passages avec lesquels elle peut prier. Vivre une vie de discernement au quotidien et utiliser tous les outils spirituels qui sont à sa disposition. Ce qui était le point faible de ses défenses contre l'ennemi devient de plus en plus fort, et sa relation au Seigneur va tellement changer. C'est la dernière leçon de croissance que saint Ignace veut nous donner. Soyez attentifs à vos points faibles et mettez tout en œuvre pour les renforcer, et votre intimité avec Dieu atteindra d'autres niveaux. Encore un exemple. Prenons une autre personne qui veut elle aussi sincèrement se rapprocher de Dieu, mais qui a tendance à se décourager facilement. Connais-toi toi-même, le proverbe le plus ancien pour mener une vie pleine de sens. Connais-toi toi-même. Connaître ses faiblesses et commencer à travailler sur soi-même. En 1975, le pape Paul VI déclara bienheureux un ouvrier irlandais du nom de Matt Talbot. Talbot avait 69 ans quand il mourut d'une crise cardiaque dans la rue sur le chemin de l'église où il allait à la messe. Personne ne savait qui il était. Il fut amené à l'hôpital. Et là, quand ils déshabillèrent le corps pour le préparer, ils découvrirent qu'il portait des instruments de mortification. C'était le premier signe que cet homme n'était pas banal. Matt Talbot passa l'essentiel de sa vie à travailler comme ouvrier non qualifié dans le bâtiment. Il était connu pour son honnêteté et son acharnement au travail, sa générosité, sa tranquillité. Personne ne savait grand-chose de lui. Il avait quitté l'école des frères des écoles chrétiennes de son quartier pauvre de Dublin à l'âge de 12 ans et avait commencé à travailler comme messager chez un marchand en vin. En un an, il était tombé dans l'alcoolisme. Il devint un alcoolique invétéré, fréquentant les bars de la ville avec ses frères et ses amis, y dépensant la quasi-totalité de son salaire et accumulant des dettes. À 28 ans, un jour où il se trouvait comme d'habitude dans un bar avec ses amis, sa vie bascula. Alors que sans le sou, incapable de trouver l'alcool que son corps réclamait, incapable d'emprunter à ses amis qui soit n'avaient pas plus d'argent que lui, soit ne lui faisaient plus confiance, il rentra chez lui et annonça à sa mère qu'il allait prendre l'engagement de ne plus boire. Il prit un engagement solennel pour 3 mois, dans la Ligue du Sacré-Cœur. À la fin des 3 mois, il renouvela son engagement pour 6 mois, puis pour la vie. À partir de ce jour, il ne toucha plus à une goutte d'alcool. On peut imaginer que ça n'a pas été facile. Mais avec une intuition spirituelle remarquable, cet homme, qui n'avait jamais porté attention à sa vie spirituelle, sut qu'il était trop faible pour tenir l'engagement seul et qu'il avait désespérément besoin d'aide. Alors, il commença à se lever très tôt le matin pour aller à la messe. Le prêtre le trouvait devant la porte de l'église à l'aube. Il restait dans l'église jusqu'à l'heure de l'embauche et y retournait après le travail. Le dimanche, il assistait à plusieurs messes. Il raconta plus tard que dans ses premiers jours d'abstinence, il n'y avait qu'une prière qu'il était capable de faire. À genoux dans l'église, cet homme qui n'avait jamais vraiment essayé de prier auparavant, le corps torturé par le manque d'alcool, répétait sans fin. « Seigneur, dans ta miséricorde, donne-moi le don de la prière. » Et graduellement, ce qui était une tentative douloureuse de prier devint plus facile, possible, attirant, et le transforma. Avec une sagesse surprenante pour un homme de si peu d'éducation, il commença à lire la Bible. Il existe encore sa Bible, où sont soulignés les passages qu'il aimait le plus. Il commença aussi à lire des vies de saints. Il fut surpris par un compagnon de travail à lire l'autobiographie de John Henry Newman, une œuvre assez difficile, qu'il lisait en promenant son doigt le long des lignes. Il savait aussi qu'il ne pourrait pas espérer priver son corps d'alcool s'il le gâtait d'autres choses que son corps réclamait. Il commença donc une vie très austère de pénitence. Il était guidé sur ce chemin spirituel par un prêtre qu'il avait rencontré et en qui il avait confiance. Ses repas étaient très frugaux. Il dormait sur une planche et son oreiller était un morceau de bois et il utilisait des instruments pour s'exercer à la pénitence corporelle. Cet homme savait bien quel était son point faible et il construisit toute sa vie spirituelle avec l'objectif de renforcer son point faible. Et cela le conduisit à la sainteté. C'est la bénédiction de la règle numéro 14. Si on découvre sa faiblesse, sa brèche, et qu'on travaille courageusement à la combler, à la renforcer, on en sort transformé. Revenons au tout début de nos discussions avec le jeune Augustin, qui se détachait de plus en plus de Dieu dans les péchés mortels, et constatons tout le chemin parcouru en suivant le fil des règles. Depuis cette toute première règle qui traitait de celui qui s'éloigne de Dieu, jusqu'à cette dernière règle qui traite de celui qui sait, avant même que l'ennemi ne commence à l'agresser, où va avoir lieu l'attaque et qui s'y prépare en renforçant ce point faible. On pourrait conclure en réutilisant la citation célèbre de Shakespeare « Sois fidèle à toi-même, mais toi-même tel que le Seigneur te voit et non tel que l'ennemi de la nature humaine voudrait que tu deviennes. Fidèle à qui Dieu t'appelle à être, créé à son image, appelé à la vie éternelle, appelé à vivre en communion avec lui. » Relisons la règle numéro 14. Enfin, il imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche butin. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place et il l'attaque du côté le plus faible. Il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine. Il rôde sans cesse autour de nous, il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible, et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire. Quelques réflexions finales pour résumer ce que nous avons vu et aussi ce qui nous attend maintenant si nous essayons d'appliquer les règles en exploitant toutes les ressources mises à notre disposition dans cet enseignement. L'anglais Chesterton, qui est un auteur extraordinaire et un maître du paradoxe, prend ce dicton bien connu. Si un travail vaut la peine d'être fait, il vaut la peine d'être bien fait, et le retourne pour dire « Si un travail vaut la peine d'être fait, il vaut la peine d'être fait de façon médiocre. » Et il a tout à fait raison. Si le mieux que nous puissions faire pour une tâche, un travail qui mérite d'être entrepris, si le mieux que nous puissions faire est de le faire médiocrement, ça vaut quand même la peine de le faire, même médiocrement. C'est tout à fait vrai pour la pratique de ces règles dans la vie quotidienne. C'est tout à fait vrai pour la prière et pour beaucoup d'autres choses de la vie spirituelle. Si le mieux qu'on puisse faire en essayant de vivre l'enseignement de ces 14 règles et de les vivre approximativement, pas toujours conscient de ce qui se passe, pas toujours capable de comprendre ce qui arrive, pas toujours en mesure de réagir de la meilleure manière, mais en essayant sincèrement de faire de son mieux, cela vaut quand même vraiment la peine de le faire. Vous vous souvenez de nos premières conversations quand Saint Ignace racontait comment un jour ses yeux ont commencé à s'ouvrir un peu sur ce qui se passait en lui. Un petit peu, mais ça a été juste assez pour que Dieu transforme sa vie et à travers lui et son enseignement, en transforme beaucoup d'autres. Et c'est la même chose pour tout le monde, même si de nombreuses fois, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on ne comprend pas, on ne réagit pas de manière appropriée, les trois grandes étapes du discernement, toutes les fois où on est capable de prendre conscience, de comprendre et d'accepter la consolation ou de rejeter la désolation, toutes ces fois-là ont le pouvoir de transformer radicalement la vie spirituelle et on peut être reconnaissant d'avoir ces règles. Quel que soit le pourcentage de fois où on est encore aveuglé, la seule chose importante est de ne jamais cesser d'essayer de vivre une vie de discernement. Sainte Thérèse d'Avila dit quelque part, après la richesse des conseils qu'elle donne sur la prière dans ses écrits, que finalement, en fin de compte, avoir une vie de prière de plus en plus riche se résume à une seule chose, la fidélité. Ne cessez jamais de prier et vous aurez une vie de prière féconde. C'est aussi simple que cela. Et c'est un enseignement précieux, surtout dans les jours où la prière semble aride, difficile, distraite, artificielle. N'arrêtez jamais et votre vie de prière ne cessera de se développer. Et la même chose est vraie pour la vie de discernement, pour la mise en pratique de ces règles. Ne jamais cesser d'essayer. Je n'ai pas pensé aux règles depuis des semaines. Aujourd'hui, je tombe par hasard sur la feuille où je les ai notées. Je veux recommencer aujourd'hui même à les mettre en pratique. Ne jamais se décourager. En y revenant encore et encore, les règles nous apporteront des bienfaits incalculables et notre vie spirituelle deviendra de plus en plus riche. En conclusion, je citerai le dernier verset du chapitre 16 de l'Évangile de Jean. C'est en quelque sorte la dernière chose que Jésus ait dite à ses disciples pendant la dernière scène. Parce que dans le chapitre 17, il se tourne vers son Père dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale et dans le chapitre 18, il se dirige vers sa passion, la nuit du jeudi saint et la suite. Et voici ce qu'il dit à ses disciples dans sa dernière parole pour eux. Il sait qu'ils ont le cœur lourd en ce soir du jeudi saint. Alors il leur dit, « Dans le monde, vous avez à souffrir. » Et c'est vrai pour nous aussi, nous souffrons de bien des manières. Il y a tellement de choses dans le monde autour de nous, dans notre vie, qui nous affligent et nous causent de la peine. « Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Et c'est dans cet état d'esprit que nous vivons la vie de discernement. C'est dans cet état d'esprit que nous appliquons ces règles. Parce que la force qui est avec nous, l'amour infini, fidèle, personnel de notre Sauveur, a vaincu le monde, a vaincu tout ce qui pourrait nous empêcher de recevoir l'amour de Dieu, d'y grandir et d'y retourner. Que nous vivions ces règles avec courage et joie, parce que celui qui est avec nous est infiniment fort. Un jour, Jésus entra dans la synagogue à Nazareth. L'Esprit était sur lui au jour de son baptême. Il était allé au désert où il triompha du tentateur. Et dans la synagogue de Nazareth, on lui tendit le rouleau du livre d'Isaïe et Jésus commença à lire. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance. » Aux prisonniers, leur libération. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi alors que nous concluons ces réflexions. Nous te prions de nous combler de ta grâce, nous tous qui avons partagé ce voyage de découverte des 14 règles. Libère notre cœur, remplis-nous de ton amour et appelle-nous à toujours grandir pour mieux nous approcher de toi et ne jamais rester loin de toi.